Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut, salut Charlie.
Aujourd'hui, on reçoit l'un de nos plus grands comédiens de théâtre.
Pierre Arditi.
Ah, ça y est, il vient de voir.
Non.
Ah bah,
non.
Depuis le temps qu'on l'attendait.
Ah, ce cher Pierrot.
Mais c'est dire. Pas lui, enfin.
Ah, c'est pas lui.
Voilà, il y a une belle filmo aussi. Il y a Didier d'Alain Chabat. Ma femme est une actrice d'Yvan Attal. Oui, nos jours heureux de Nakache et Toledano, j'en passe.
Bah, c'est qui?
Bah, il a même joué dans un Woody Allen.
Non, mais d'accord, mais c'est qui?
À Belansky.
Ah, et il vient avec son frère. Cain en luge. Abel en ski, Cain en luge.
Elle est bonne.
Excellent.
Hein,
excellent. Excellent, en effet, oui. On peut revenir à l'actualité de Lionel Abel en ski,
oui,
s'il vous
plaît. Voilà.
Alors, c'est une pièce qui se joue au théâtre Édouard VII qui s'intitule Encore un instant.
Avec Michel Larocque et François Berléand.
Voilà.
J'ai vu. Super, on va pouvoir parler Gilets jaunes.
Ah non. Notre invité, c'est Abel en ski, c'est pas François Berléand.
Bah, peut-être qu'il pourrait se désolidariser. Hein.
Il a surtout parlé de sa pièce. Alors, et son rôle dedans.
Ah. Qui est ce rôle
et
donc
qui est, en fait, c'est un auteur de théâtre.
Ah, donc il a écrit la pièce, en fait.
Non. Il joue un type qui a écrit une pièce.
Et pourquoi il joue pas dans la pièce qu'il a écrite?
Parce qu'il a pas écrit la pièce, c'est le rôle.
Mais le rôle de quelle pièce? Enfin, c'est dans celle qu'il joue, dans celle qu'il a pas écrite.
Je comprends plus là.
Bah, non.
Attendez, non, parce qu'il a écrit une pièce pour Michel Larocque, qui accepte de la jouer parce qu'elle s'ennuie depuis le décès de son mari François Berléand.
Berléand, c'est un coup des gilets jaunes.
Oh, ça va être trop compliqué là. Je vais rappeler Arditi pour voir s'il est pas dispo par hasard.
Peut-être. Quand même.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up émission qui envoie la flèche de la blague dans le cœur de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont payer l'addition, mais avec romantisme. Le monde risque de s'écrouler dans à peine quelques décennies à cause du réchauffement climatique, de l'extinction des espèces et de la fin du pétrole. Alors certains s'y préparent, on les appelle les collapsologues ou les catastrophistes. Et ils font même leur entrée à l'université sur le thème « Comment se préparer à la fin de notre civilisation ?»
Pour dormir, tu creuses un trou. D'ailleurs, de toute façon, tu dors pas. T'as du combat, t'as déjà nagé avec les Rangers ?
Non. Les auteurs se passionnent pour les seconds rôles de l'histoire, avec un grand H, qu'ils transforment en premier rôle des romans, des personnages méconnus qui ont fait avancer le monde et sont réhabilités devenant des héros de littérature, même si cela peut aller à l'encontre de leur modestie.
Mais je suis quand même numéro 2 de chez Binet, bordel ! Mais tout le monde l'oublie dans cette maison ou quoi ? Je suis numéro 2 !
Le match PSG-Manchester a été diffusé gratos sur Facebook et 1,5 million de personnes a pu en profiter. Quand on sait que le groupe SFR, propriétaire de RMC, a dépensé 1 milliard d'euros pour les droits de diffusion, devant le match, pour eux, c'est pas évident de se détendre.
Quelle joie d'encourager, en toute sécurité, via le petit écran, les exploits de ces 22 athlètes en caleçonnés qui tentent, avec pugnacité, de shooter la balle dans leur filet.
Lui, il vit sa vie en mauvais blanc,
mais
supporter d'Anderlecht, où on regarde aussi les matchs en streaming.
Et choté, ça vient de chez nous, parce que j'avais un jeu de mots avec Don Quichotte qui n'a jamais fonctionné en France. Parce que
Je vous présente donc la belle équipe que vous avez méritée aujourd'hui à 17h20. Celle qui aime tellement la musique que son Valentin a intérêt de lui faire au moins 45 tours. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Mais non, je suis célibataire, combien de fois vous le dire.
Essaye de faire monter votre cote.
Aujourd'hui, il va y avoir plein de trucs, je peux pas résumer tellement il y en aura.
Bah merci d'avoir bien préparé ce lancement à 17h30. Celui qui a reçu plus de roses rouges de femmes de gauche aujourd'hui qu'il n'y a encore de membres au Parti Socialiste, c'est Guillaume Meurice, évidemment.
Bonjour à tous. Alors je vais vous parler du rire aujourd'hui, un sujet qu'on connaît assez peu. Je me suis intéressé à un projet qui s'appelle le LOL Project et j'ai rencontré le concepteur.
Alors faire rire, c'est facile.
Oui, c'est bien ce qui me semblait. En écoutant l'émission, je me suis dit, casse pas trop le cul.
Et enfin, à 17h40, comme par hasard, elle est là aujourd'hui à côté de moi. Parfois, la vie nous offre des signes tellement évidents que ce serait blasphème de les refuser. N'est-ce pas, Valentine Dupont-Mono?
Bonjour.
Échec cuisant une fois de plus.
Ah là, j'aurais cru que ça allait marcher.
J'avais mis un peu du cœur.
On va parler du ridicule. En plus, c'est vrai.
Et voici celui qui va enjailler notre open space. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Lionel Abelansky.
Oui,
c'est lui.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
Bienvenue Lionel Abelansky.
Ah, mais c'est moi qui vous remercie, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi.
Bah, nous aussi, on a vu tellement de films avec vous dedans.
Et
des pièces aussi évidemment, et de la télévision. Mais aujourd'hui on va parler théâtre. C'est Alex Vizorek qui est allé vous voir dans une pièce qui s'intitule « Encore un instant ». Vous jouez Lionel Abelansky aux côtés de Michel Larocque, de François Berléand et de Vinnie Dargo. Ça se passe au Théâtre Édouard VII, dans une mise en scène de Bernard Murat. Et c'est une pièce de Fabrice Roger Lacan.
Qui a écrit Cravate Club, pour ceux qui se souviennent, avec Édouard Baird notamment. La pièce démarre, un couple se dispute sur scène, Michel Larocque, François Berléand. Il n'a pas envie qu'elle accueille un auteur qui va lui proposer une pièce de théâtre. Ils sont comédiens tous les deux. Et c'est vous, cet auteur. Vous arrivez dans cette pièce assez vite. Et on voit que vous ne vous adressez qu'à Michel Larocque. Et là, on commence à comprendre un petit peu l'intrigue.
Que s'est-il passé ?
Mais pourquoi il ne parle pas à François Berléand ?
C'est-à-dire que c'est une comédie d'amour un peu inversée, parce qu'en général, dans les pièces où on parle d'amour, ça se passe très très mal. Alors que là, au départ, ce couple qui est ensemble depuis 30 ans, ça se passe très bien. Le seul problème, c'est qu'il est mort.
Oui, c'est un problème en soi, oui.
Et donc, elle vit avec ce fantôme et
c'est comme le sixième sens avec Bruce Willis, mais sur scène avec...
Il y a cet esprit-là, vous avez raison. Sauf qu'on donne...
Il y a du plagiat, vous voulez dire? Un petit peu le Gad Elmaleh.
Je crois qu'il avait écrit avant Fabrice Roger Lacan.
Surtout, la clé, elle est donnée tout de suite. Ce qui n'est pas le cas du sixième sens. On comprend tout de suite.
Au bout de deux minutes.
Voilà,
oui.
C'est pour ça que je me permets de le dire.
Il y a un premier personnage qui rentre avant moi, qui est jeune voisin, fou amoureux d'elle. Et en fait, nous, les deux personnages, donc Vinnie Dargo, qui est ce jeune voisin, qui venons de l'extérieur, qui sommes la vie, on vient perturber la quiétude de ce deuil quoi qu'elle ne veut pas faire.
Parce qu'il est sur son épaule, il lui rappelle qu'ils sont heureux, enfin qu'ils ont été heureux, et elle a pas envie de chercher... Elle a même pas spécialement envie de remonter sur scène. C'est un moment, elle dit, bon, il faudrait que j'y aille, parce que ça fait 6-9 mois que je fais plus rien depuis que tu es parti. Et donc elle accepte ce rendez-vous avec vous, elle sait que vous êtes un peu amoureux d'elle.
Elle sent que...
Ah, en tout cas, il lui dit.
Ouais. Il lui dit, alors je suis... Je suis un auteur que lui méprise profondément. En plus, je joue donc un auteur à succès qui fait une pièce par an la démarche de ce personnage, c'est d'avoir écrit la pièce de sa vie pour cette femme, pour retrouver cette femme, parce que ils ont eu une toute petite histoire il y a une trentaine d'années. Et il vient la sauver. C'est un peu démesuré en fait. Il se prend un peu pour un sauveur, un Superman.
Il dit que c'est son tour.
Et c'est son tour, ouais, de prendre la place du Pygmalion.
Mais vous dites que c'est une pièce sur l'amour, et moi j'ai trouvé que c'était une pièce sur la mort, mais positive. Vu que la mort, elle est là, il est présent, il est sympa. Mais ça nous donne pas du tout cette impression de deuil, mais c'est une pièce sur le deuil.
Oui, mais elle a une vision idéalisée de son couple, parce que puisque c'est on comprend très vite que ce personnage est dans sa tête, et c'est elle qui le, c'est sa marionnette, c'est-à-dire qu'elle prend que ce qu'elle... Elle lui fait dire à peu près que ce qu'elle a envie d'entendre, ou que ce qu'elle a envie de vivre à ce moment-là.
J'ai trouvé que pas toujours, parce que parfois il la remet en question, mais on imagine effectivement...
Mais ça fait partie de ce qu'ils ont vécu aussi, enfin de ce qu'elle a pu imaginer, ou de ce qu'elle aurait idéalisé de vivre avec lui, ou de vivre encore aujourd'hui avec lui.
Et donc ça, c'est, moi j'ai trouvé ça très intéressant, cette réflexion là-dessus. Il y a des moments très drôles, il y a des moments très touchants. Comment c'est de jouer, parce qu'on dit toujours qu'au théâtre, il faut être vigilant à tout ce qui se passe, avec un acteur que vous n'êtes pas censé voir. C'est-à-dire que vous devez tout faire pour pas le regarder.
Ah, mais c'est, en répétition, c'était compliqué. Et puis en plus, on se connaît assez bien avec François Berléand, et il est très rieur, et ça peut m'arriver aussi. Et, donc déjà, de pas se regarder, c'est bien, parce que on se fait pas rire ni l'un ni l'autre. Et, parfois, ça m'échappe. Et il y a des moments où on parle en même temps, on dit la même chose. Parce qu'on est en dialogue avec elle tous les deux. Enfin, je sais pas comment on dit un dialogue à trois quand ce qui est pas
un trialogue.
Vraiment un trialogue puisque ce sont deux dialogues.
Et donc
il faut qu'on soit calé ensemble et ça c'est assez compliqué à réaliser.
Avec François Berléand, donc avec Michel Larocque et Vinnie Dargo. Ça se passe au théâtre Édouard VII, tous les jours sauf le dimanche à 21h. Et le samedi, il y a une séance supplémentaire à 17h. Ça s'appelle Encore un instant de Fabrice Roger Lacan. Mise en scène Bernard Murat, puisque c'est toujours son théâtre, j'imagine.
Ce n'est plus son théâtre.
Ah, c'est plus son théâtre.
Mais il fait encore des mises en scène.
Gardez des bonnes relations.
Il a encore un petit bureau.
Voilà, comme ça, vous êtes informés absolument jusqu'au bout. Amy Winehouse avec nous, Back to Black. Quelle feignasse celle-là.
Vous étiez en train de travailler, c'est tout.
Ouais, j'étais plongée dans mes dossiers. J'écoutais Amy Winehouse avec les auditeurs.
C'est
les oreilles
qui persiflaient.
Vous écoutez.
Vous êtes bien sur Radio Campus.
Vous écoutez par Jupiter, bien c'est France sûr. Inter, on est bien, on est détendu, c'est pour ça, on est avec Lionel Abelanski, et ça nous fait bien plaisir. Et pour l'entourer, Alex.
Eh bien, Guillaume Meurice, qu'on a entendu, Mélanie Bauer, on ne sait pas très bien de quoi elle va parler, mais ça a l'air bien touffu. Et Clara Dupont-Mono de Ridicule, autant vous dire que ça va m'intéresser au plus haut point.
C'est le moment de l'information, n'est-il pas?
Il est.
N'est-il pas?
À quel moment vous redescendez sur Terre et vous vous dites « Merde, on a merdé ».
Le journal de presque 17h17.
Ok, non mais je reconnais, vous et moi, aujourd'hui, on n'a pas la même vie.
Et on commence par les titres.
Alain Juppé entre au Conseil constitutionnel sur proposition de Richard Ferrand.
Après avoir eu la super pêche, il obtient la super pige.
À son procès, Christophe Détinger, le boxeur, a nié avoir voulu casser du flic.
Mais oui, on le voit bien qu'il veut juste casser les casques et les boucliers.
Et des brèves ?
Bien sûr, puisque aujourd'hui c'est la fête des amoureux, des brèves aussi.
Ah, on n'est pas plus ça.
Bien sûr.
Alain Juppé, notre PJU, a annoncé qu'il quittait la mairie de Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel.
Et oui, ce ne sera pas la première fois que le nom d'Alain Juppé va être associé à une histoire d'emploi fictif.
Oui. Et si vous écoutiez France Inter ce matin, sans avoir cette information qui part au Conseil constitutionnel, eh ben...
Vous voyez, ma maman m'a envoyé un SMS pour me dire « Je viens d'apprendre la nouvelle et je suis très triste ». C'est quelqu'un qui a quand même vraiment marqué la ville.
J'ai eu peur.
Il a quand même bien travaillé.
Moi, je me suis réveillée.
Il a réussi à nouer quand même un lien... un peu charnel, un peu privilégié, avec les Bordelais.
Il va manquer à sa famille politique.
Des personnalités comme Alain Juppé manquent toujours à leur famille politique.
Non, mais il est vivant.
Ah, mais j'ai eu peur ce matin.
Bordelais, le vif comme un deuil. Il est vivant, voilà.
Bon, voilà. Il a même pleuré en annonçant son départ. Péju, il a dit, c'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé.
Oh, c'était beau. On aurait dit les premières apparitions publiques de Jonathan Daval. Ça m'a
chialé, quoi. Alain Juppé entre deux au Conseil constitutionnel sur proposition de Richard Ferrand.
Je crois que c'est le choix de l'expérience.
Ah, vous parlez de son âge.
Non, pas seulement. Vu son passé judiciaire, il a le background juridique pour veiller à la régularité des élections et conformité des lois.
Aurore Berger a salué cette nouvelle en déclarant qu'il avait toujours servi la France et les Français.
Non, je crois qu'il y a une coquille dans votre texte.
Hein, comment ça?
Non, il s'est servi de la France.
Alors, de Bordeaux, allons vers Paris plutôt, où la fréquentation touristique de l'Île-de-France bat des records en 2018.
Et oui, mais c'est vrai que depuis le 17 novembre dernier, on a bien vu qu'il y avait plein de gens de province qui montaient à Paris le samedi pour se balader sur les champs et sans doute aller voir François Berléand le soir au théâtre.
Économie à présent, le PDG de Total assume son salaire annuel de 3,8 millions d'euros.
Mais oui, une manière de dégoûter les gilets jaunes et de leur dire « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard ».
Comique encore.
Comique encore, Gad Elmaleh répond pour la première fois à cette polémique sur le plagiat. Il s'est déguisé en chouchou chez lui, il a fait une petite vidéo et il nous dit
« Alors ce soir, on va leur dire qu'ils aillent tous se faire bien cajoler ».
Voilà, Gad Elmaleh, c'est le mec qui vient cambrioler chez toi et qui ensuite t'envoie une vidéo pour te dire qu'il aime beaucoup ton écran LCD de 121 cm.
Dans la série Les Comics s'expliquent.
Et oui, Jean-Marie Bigard, suite évidemment à sa mauvaise blague chez Hanouna, il répond à cette polémique et il dit
« Que ceux qui disent que je suis vulgaire aillent se faire enculer ».
Voilà, voilà. Et vu comme les réactions à sa blague sont unanimes, il faut s'attendre à une pénurie de vaseline en France dans les prochains jours.
Bon, il y a des brèves là-dessus.
Oui, petite info, Saint-Valentin, la pilule contre le chagrin va arriver en France.
Ah bah, ça existait déjà, non?
Oui, mais ça s'appelait l'alcool.
Bah oui.
Alors maintenant, c'est vraiment...
Oui, d'accord. Alors, qui va commander ça?
Eh ben, Jeannette Bougrat a déjà commandé une dizaine de boîtes de pilules anti-chagrin.
Il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Et la dernière?
Lion de poing, il frappe un passant en pensant qu'il s'agissait d'un ami. Et voilà un nouvel axe de défense intéressant pour Alexandre Benalar.
Merci Alexandre Vizorek. 17h24 sur France Inter. Notre invité, c'est Lionel Abelansky qui est en ce moment au théâtre Édouard VII dans Encore un instant. Est-ce que vous irez ensuite dans toute la France, vous pensez?
Oui,
c'est
en Belgique aussi.
C'est formidable.
Oui.
Voilà.
À Biarritz.
À Biarritz, je ne sais pas. Mais je sais qu'on ira en Belgique.
Une grande tournée. Ouais. Très bien.
En octobre, novembre, décembre, là, cette année.
Ah bah voilà une bonne nouvelle. Comme
Charlie,
quoi,
c'est son angoisse qu'on ne soit pas trop parisianiste.
Bah oui, moi, j'adore.
C'est toujours le théâtre, c'est Paris, Paris, Paris. Voilà. Puis à un moment, voilà.
J'adore partir en tournée. C'est normal, je trouve.
On va aborder ce premier sujet avec vous, Lionel Abelansky, les théories sur la fin du monde. Ah. On s'est dit encore une feel-good d'émission.
On a fait l'antisémitisme, alors on s'est dit la fin du monde.
Oh, j'aurais bien aimé ça.
Ouais, je me doute. Avec Bruno Volkovitch hier.
Oui, j'ai entendu,
ce sujet qu'on a déjà traité.
J'ai la même histoire. J'ai vu, j'aurais pu vous raconter exactement la même histoire avec l'allée des justes, tout ça.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Nous, on invite que des justes, c'est la règle.
La même blague.
Exactement. Oui, d'accord. Une partie de votre famille a pu être cachée, par exemple?
Oui, mon père. Mon père et ses frères, enfin les enfants, ma grand-mère avait caché les plus petits.
Et donc vous avez trouvé ça fourbe d'aller dessiner des portraits de Simone Veil sous les croix gamines qui étaient...
Ouais,
je suis assez d'accord avec
ça. En plus, taguer des boîtes aux lettres avec des portraits de Simone Veil, je trouve ça un petit peu...
Ouais, déjà,
c'est exactement comme ça qu'on a traité ce sujet.
Trop de beauté, on n'est pas habitué dans les villes.
Eh bien, parlons sida maintenant.
C'est un sujet qu'on a abordé hier, effectivement. Oui. Aujourd'hui, on a donc choisi la fin du monde.
C'est bien.
Voilà.
Il y a un lien. Hein.
Oui, mais figurez-vous que cette théorie de fin du monde trouve un écho grandissant auprès du grand public, et a raison. Les catastrophistes qui prévoient l'effondrement de notre civilisation vers 2030, ils nous disent. Ils incitent à s'y préparer. Un effondrement d'un bloc, puisque tout est interconnecté dans notre société mondialisée. Si pour la transition écologique, ils estiment que c'est déjà trop tard, eh bien il faut commencer à s'adapter à un autre mode de vie, voire de survie.
Les copains, regardez. J'ai trouvé deux moutons à la décharge.
Voilà, ça, c'est de l'initiative pour le collectif. Bravo, Dylan.
Bravo, Dylan.
On pourrait exploiter leur laine.
Non, on va les bouffer, ces moutons. C'est plus égalitaire.
Ouais, carrément. Vas-y, à fond, on les domaine. Attendez, si on les fait se reproduire, on a un joli troupeau. Comme ça, on aurait de la viande tous les jours.
Hé, attendez, ou sinon, On en mange qu'un des deux et on garde l'autre pour faire un troupeau.
C'est un extrait de Problemos, le film d'Éric Judor. Ce thème du catastrophisme et des collapsologues, de collapse ça veut dire de s'effondrer d'un bloc, ça se trouve dans tous nos journaux cette semaine. Il y a même des cours qui se donnent à l'université de Cergy-Pontoise. Il y a un module sur comment survivre ou se préparer à la fin de la civilisation. Et puis il y a un grand succès en France et en Belgique d'un livre qui s'intitule « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigné et Raphaël Stévens. Vous y pensez parfois au futur et à la fin du monde?
Mais pas du tout, ça m'échappe complètement. J'ai fait l'impasse sur le sujet. Je crois.
Mais on va tous crever, hein, Lionel. Hein,
je le sais, mais tous en même temps, j'ai du mal à y croire.
Alors, il y a la fin des énergies fossiles, le réchauffement climatique, la disparition des espèces. Des insectes, surtout également.
Mais est-ce qu'on aura toujours Internet?
Est-ce qu'il y aura du Wi-Fi?
Alors, moi, c'est plutôt dans une branche plus américaine qu'on appelle le survivalisme, qui prévoit un bunker et des réserves de nourriture, tandis qu'en Europe, on se prépare plus à la fin du monde par le partage, la solidarité, la décroissance.
L'Europe, c'est la gauche.
Bien sûr, c'est bien connu.
Donc, est-ce que vous trouvez cette idée farfelue de penser à ça, ou vous vous dites, pourquoi pas se poser la question? Est-ce que là, on travaille à la transition écologique seulement maintenant et peut-être qu'il est déjà trop tard, on ne sait pas.
Moi, j'ai l'impression à mon petit niveau de faire ce qu'il faut, ou en tout cas d'essayer d'avancer.
Vous faites
faire ce qu'il
pipi
faut.
Sous la douche.
Absolument.
Ça c'est
bien. Absolument. Et je veux même dire que parfois, j'utilise pas de papier toilette avant de prendre la douche.
Ah,
je suis allé loin.
Ah, vous êtes radical.
Je vais gagner des points.
Il va y avoir vite fait des toilettes sèches installées au théâtre Édouard VII.
Et
vous faites votre part, quoi.
Je fais ma part et j'ai bien conscience que c'est pas le cas de tout le monde et pas le cas des industries et et des pouvoirs publics en général. Mais de là, j'arrive pas à imaginer le chaos.
Projeter
là-dedans. Je me dis qu'il va y avoir un sursaut, qu'il va se passer un truc très grave, qui est souvent le cas en général, où on réagit.
Ou qu'on va trouver des solutions, que l'intelligence artificielle va nous aider, des choses comme ça.
Oui, alors je sais pas si c'est une solution.
Le fait que les jeunes prennent ça à bras le corps, parce que c'est.
On est jeudi, c'est le jour des manifs en Belgique.
Ouais, mais j'ai l'impression que les lycéens français ont l'air de vouloir suivre.
Ben
voilà, donc. Ça vous surprend que ça vienne de cette génération-là
qui... Bah non, parce qu'on les élève là un peu comme ça. Enfin, je sais pas. Enfin, je vois mes enfants, ils ont des réflexes maintenant qu'on n'avait pas, que nous on a appris au fur et à mesure. Mais eux, ça a été inné. C'était comme l'iPad.
Instinctif.
Ouais.
Ça devient instinctif. Ouais.
Est-ce que ça vous choque qu'il n'y ait pas de sursaut international et que des pays comme la Chine, par exemple, se mettent pas ensemble à un moment? Est-ce que ça vous met pas en colère?
Ouais, je comprends pas que ça vienne en plus d'un dirigeant, parce que c'est souvent le cas. C'est-à-dire que c'est une personne qui, pour le coup, il y a Trump qui prend le pouvoir et qui nie donc le réchauffement climatique. Quand il fait froid, il dit, vous voyez, j'avais raison, il fait froid, hein. Et donc tout s'arrête. C'est-à-dire qu'on avait une petite avancée avec la COP21, donc tout est bloqué parce que ce type est là pendant 5 ans et
4 ans heureusement.
Oui,
ça enfin, 4 bon, ans. Ça n'a pas changé grand-chose.
Il lui reste 2 ans. Ouais. Peut-être plus et on fait des sauts en arrière tout le temps et il n'y a pas vraiment de prise de conscience.
Bah, quant à la Chine, elle s'en fout complètement.
Ah oui, ça n'existe pas, non.
Voilà pour ce sujet sur la fin du monde.
Ça fait plaisir.
Nous a bien mis en joie. Lionel Abelanski.
J'ai pas de recette non plus. Hein. Je suis désolé.
Non, pas déçu. Hein, vous n'ayez pas une solution précise.
Bon,
ouais.
Ouais. Non,
vous pouvez y aller. C'est bon, en fait. On n'a plus besoin de vous.
On sera là. Nous, on sera dans la radio. On continuera à croire en un monde meilleur, au moins pendant une heure, de 17h à 18h. Et aujourd'hui, c'est avec Lionel Abelanski et en la présence de Mélanie Bauer.
Oui. Alors, cher invité, j'ai découvert avec plaisir, en faisant quelques recherches, que vous aviez votre voix posée sur quelques disques. D'abord, ce très beau poème de Charles d'Orléans que l'on pourrait adapter, je pense, à l'ensemble de l'équipe de Par Jupiter qui ne suce pas des glaçons en été et met le feu en hiver.
En hiver, Charles d'Orléans. En hiver, du feu, et en été, boire, boire.
Glou, glou.
C'est de quoi on fait mémoire quand on vient en aucun lieu. Ce n'est ni bourde, ni jeu. Qui mon conseil voudra croire ? En hiver, du feu. Et en été, boire, boire.
N'est-ce pas, Alex? C'est mignon, vous avez aussi chanté du Georges Brassens, c'est ça, c'est plus casse-gueule que la poésie pour enfants. Elle n'est pas si facile à chanter, hein, la moustache la plus traduite et adaptée au monde. Vous avez été humble puisque vous vous êtes fait tout petit.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'ai des chiens méchants, elle me fait manger.
Pas mal, hein?
Je me suis éclaté.
Ah bah oui.
C'était à l'initiative de Stéphane Campos et Louis Chédid. On a fait chanter, parler les acteurs sur Brassens. Et j'ai adoré.
Mais vous chantez là, j'ai vous parlez adoré. Pas.
Ouais, j'ai chanté.
Mais ouais, vous avez chanté.
J'ai chanté, moi j'adore ça, j'adore chanter.
Louis Chédid à la direction artistique sur ce disque Brassens sur parole, chanté donc par des comédiens. Alors selon mes sources, vous auriez rêvé d'être un chanteur de rock. Vous auriez avoué d'ailleurs à nos collègues de France Info que vous chantiez le antisocial de Trust.
Ouais.
Ce qui vous fait un point commun avec le regretté Pierre Bellemare et votre ami, le réalisateur de Gigolo, Olivier Barou.
Je pense que tu peux le faire. Est-ce qu'on voit bien Pierre?
Antisocial.
On voit bien Pierre?
Ouais, ouais, ça va.
Alors, attention, Pierre, même principe. Même...
Alors, il s'arrête et j'enchaîne.
Exactement, même ébullition. C'est un peu plus... Attention, Raph, quand tu veux.
Qu'est-ce qui est drôle, cette chanson?
Tu vas que ton visage en lisant dans ton journal. Les gens ne te touchent pas pour faire le petit pas. Tu voudrais... le gars s'en remet la balle. Impossible de penser sans ton gilet pas mal.
Tu l'es pas, hein? Je vous laisse leur fin. Lionel Abelansky adore crier. Allez-y.
Antisocial, tu perds ton sang-froid.
Pense à toutes ces années, ton service.
Waouh, un duo avec Pierre Bellemare.
J'adore.
On n'est pas vendredi pourtant. Le Fuego-Go, c'était donc il y a longtemps quand les chaînes du câble, hein, ça avait déconné. Bon, voilà, sinon, des reprises, il y en a plein dans l'actualité musicale. Un petit plaisir coupable, par exemple, avoir absolument sur le net la reprise du Take On Me de A.A. par le groupe alternatif américain Weezer, un groupe qui a toujours fait des vidéos formidables comme celle-ci, qui se passe dans les années 80 avec Finn Wolfhard, le jeune acteur de Stranger Things. Bon, faut voir la vidéo. Ça rappelle des souvenirs à Guillaume Meurice.
Ouais.
Ça n'invente rien, mais ça fait plaisir comme un karaoké. Pour les reprises, j'ai bien aimé aussi le rocker américain Annie El-Khatib en duo avec Rudy des Honda pour une adaptation difficile, aussi celle de John Lennon, Jealous Guy, qu'ils sortent comme par hasard le jour de la Saint-Valentin, avec des effets cheesy sur la voix et des claviers tout bricolos. Vous n'avez aucun goût, Clara Dupont.
Ah, ça doit être ça.
C'est bien, c'est D2R2 qui chante.
C'est de la musique des jeunes, vous ne pouvez pas comprendre.
Ça doit être ça.
Et comment vous comprenez-vous alors?
Allez,
Je défends mon amoureuse Clara.
On parle de votre poids.
Ah ouais, d'accord. On est arrivé assez rapidement au physique quand même.
Je vous rappelle qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, donc si vous pouvez continuer la chronique.
On va terminer par une vraie chanson, nouvelle et originale. Un truc qui m'a tapé dans l'oreille. Un duo de rock de Bordeaux. Il s'appelle Équipe de foot. Un batteur et un guitariste qui chantent tous les deux. Ils sortent leur deuxième album en mai prochain. On est donc très en avance. Ils font du rock comme je l'aimais dans les années 90. Et ouais. Avec beaucoup de guitare, de fraîcheur et d'humour. Oreilles sensibles, baissez un petit peu le son. Bold is when you're out of air. Ouais, on est chauve quand on n'a plus de cheveux.
I'm born, I never meant to be.
top, hein, on dirait que c'est du belge, mais non, c'est du français. Équipe de foot, c'est un duo, l'album s'appelle Marie-Louis, sort en mai.
Merci Mélanie Boer, qu'on retrouve sur votre blog, dans votre salon, mélanieboer.fr, avec une interview de Thomas de Pourquerie, interview exclusive. Ouais, 17h39 sur France Inter, nous sommes en compagnie de Lionel Abelansky, qu'on peut voir au théâtre en ce moment, pour l'instant à Paris, au théâtre Édouard VII, dans Encore un instant, où il joue aux côtés de Michel Larocque, François Berléand et Vinnie Dargaud, et bientôt dans toute la France. Profitez-en, allez voir Lionel Abelansky, qui est avec nous et aux côtés de Guillaume Meurice.
Oui, et je vais vous parler du rire aujourd'hui, et plus précisément du rire en entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de rire au travail. Nous, par exemple, on a les brèves d'Alex Vizorek sur un moment assez pénible. On aimerait pouvoir en rire, mais ouais, c'est raté. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qui s'appelle le LOL Project. Alors, rien à voir avec la fameuse ligue du LOL qu'on connaît tous maintenant, une troupe de journalistes là, entre Albert Londres et Guy Georges. le LOL Project, c'est une idée qui est pas mal à la mode en ce moment, mettre du rire dans l'entreprise. Alors, il y a le yoga du rire, la thérapie du rire. Toutes les entreprises utilisent ça pour souder les effectifs. Alors, on connaît, on va licencier 300 personnes. Oh non! Ouais, mais attendez! Est-ce que vous savez ce que fait un poussin de 200 kilos? Non? Piou, piou, piou! Et voilà. On soude les équipes comme ça. Clara, on vous expliquera la blague, bien évidemment, après l'émission. Là, faut qu'on se soude aussi nous-mêmes. Alors, ce matin, j'ai rencontré le très sympathique David Ken, qui est le créateur du LOL Project et qui travaille avec qui?
Avec des gens qui vont pas spécialement bien dans les entreprises ou qui ont envie d'offrir une parenthèse un peu de rire à leurs employés ou leurs collaborateurs.
Et alors, comment vous faites pour les faire rire? Est-ce que vous faites comme Gad Elmaleh, vous copiez des humoristes américains?
Non, en fait, au départ, c'est des jeux qu'on fait ensemble. Et,
vous les chatouillez?
Non, je les touche pas, je les chatouille pas, je raconte pas de blagues belges, même si je suis belge.
Et voilà, ça y est, putain, on est en train de se faire grand remplacer de partout. Tout le monde a peur des Arabes ou des Noirs, c'est les Belges qui sont en train de nous bouffer, putain, personne dit rien. Laurent Wauquiez, il est silencieux là-dessus. Je me demande même si Éric Ciotti et Léon de Bruxelles, c'est pas la même personne. Non, franchement, ça fait peur. Continuons quand même avec le projet, qui a quel âge?
On va arriver aux 10 ans,
Et en plus, vous êtes belge, alors est-ce qu'il n'y a pas un risque de... Pas Marc Dutroux, tout ça?
Alors là, il a fait un raccourci. La pédophilie, Marc Dutroux, 10 ans, LOL Project.
C'était une blague pédophile, mais je ne sais pas si on peut, du coup, dans le LOL Project.
Ah, mais on peut rire de tout, hein, ça dépend avec qui.
Ouais, c'est raté. Là, c'était... Ouais, non, c'est raté. Le LOL en entreprise, c'est pas simple. Les blagues pédophiles, c'est non, a priori. Alors, sauf si vous bossez avec Roman Polanski. Là, c'est peut-être un plus. Hein, je vous rappelle qu'on vit dans un pays où on a le droit de violer des gosses si on sait faire un travelling, c'est important. Mais c'est pas le sujet. C'est le LOL en entreprise, donc le rire.
Moi, je pense que le rire, tout le monde peut rire déjà. Il n'y a pas d'handicapé du rire. Vraiment, je l'ai expérimenté, ça.
Nous, on a Clara Dupont-Mono dans notre émission, elle ne rit pas beaucoup. Comment on pourrait la décoincer un peu?
Mais pourquoi la décoincer? Peut-être qu'elle est très très bien comme ça, mais peut-être que quand elle n'est pas avec vous, elle rit beaucoup.
Et allez! C'est d'accord, c'est parce qu'on vous fait pas marrer, Clara, d'accord. Bon, ceci dit, c'est vrai que Clara, elle bosse à Marianne, donc à mon avis, elle se marre plus en conf de rédac là-bas, quand il faut décider si la une, ça va être les musulmans dans le football, les musulmans dans le tricot, les musulmans dans la polenta, les chars à voile sont-ils une menace pour la laïcité, etc., etc. C'est sûr qu'on doit bien se fendre la gueule. Et l'important, c'est ça, c'est de rire avec ses collègues.
Quand on rit avec ses collègues, on vit une expérience commune. On est, normalement, quand on rit, on s'est rapproché de quelqu'un, et on dit toujours que femme qui rit à moitié dans ton lit. C'est pas pour ça que j'ai fait ce projet, mais néanmoins...
Est-ce qu'on n'est pas face à un demi-balance tempore avec votre projet?
Non, mais j'assume.
Oui, alors attention avec ça. On va voir quand même avec Marlène Schiappa, hein, si c'est compatible. Dès qu'elle a terminé ses colloques avec Hanouna, parce que là, quand même, hier, elle l'a invité à l'Assemblée nationale, hein, Hanouna, pour un débat. On en est là. J'aimerais bien être dans 200 ou 300 ans pour lire les livres d'histoire, les thèses, l'histoire de l'Assemblée nationale de Victor Hugo à Baba. Ça s'annonce bien, les fanzous de la République. On a hâte. Mais continuons. Est-ce que David, il bosserait pour toutes les boîtes?
Très très bonne question. Je veux toujours rencontrer les gens avant.
Mais si Dassault Systèmes vous appelle demain pour faire rire les ouvriers de la boîte?
Eh ben, j'irai rencontrer les gens et je vais voir pourquoi ils m'ont appelé. Parce que les humains qui composent Dassault Systèmes, c'est leur trésor à eux.
Ah oui, c'est vrai, c'est leur petit trésor. Bon, des fois, le trésor, il sert à bombarder le Yémen. Bon, du coup, voilà, on a du mal à rigoler avec ça. Mais les salariés ont besoin de rigoler. Je tiens quand même à signaler que David intervient également bénévolement dans les hôpitaux. Donc, si dans la même journée, il fait Dassault Systèmes et un hôpital, on a vraiment on est d'un bout à l'autre de la chaîne du fendage de gueule, au sens propre comme au figuré. Alors, concluons donc avec ce LOL Project.
Quand j'arrive dans une boîte et que je présente le projet, en général, il y a un taux de volontaires énorme. C'est-à-dire que...
Mais est-ce que ça règle vraiment le problème si les employés sont malheureux?
Non,
ça règle... Juste d'avoir rigolé un quart
d'heure. Ça règle pas le problème. C'est comme des essuie-glaces. Hein. Ça empêche pas la pluie, ça permet juste d'avancer.
C'est pas mal. Mais le problème, c'est peut-être dans quelle direction on avance hein, dans une société qui règle les problèmes sociaux à coup de LOL. Quand on voit la souffrance dans les boîtes, notamment décrite par les gilets jaunes, ça fait rire de la même couleur.
Merci Guillaume Meurice. J'ai pensé à votre petite blague sur Woody Allen. Vous savez que Lionel Abelansky a tourné avec Woody Allen.
Ah oui, Polanski, j'ai dit, mais j'aurais pu dire Woody Allen.
Vous avez dit Woody Allen?
Non, c'est non. Vous avez eu envie de faire une transition.
Ah ouais, mon inconscient a pensé à Woody Allen, tiens. Eh ben voilà. Bon, vous avez tourné dans Magic in the Moonlight.
Ouais, une matinée.
C'était... Mais rare sont les acteurs français qui ont tourné avec Woody Allen. Il y a Carla Bruni et vous, alors.
Non, il y en a de plus en plus, qu'il a fait un film en...
Midnight in Paris.
Midnight in Paris.
Gad Elmaleh, je crois.
Aussi.
Qui est dedans.
Donc, bon, voilà.
Un petit peu de culture, bah ça fait pas de mal.
De toute façon, comme on est en retard avec toutes vos conneries, autant l'aborder. Bon, il y a quand même un sujet qu'on voudrait aborder ensemble avant de parler avec Clara Dupont-Mono. C'est plusieurs auteurs de romans qui s'emparent des seconds rôles de l'histoire pour en faire des héros de la littérature. Par exemple, qui connaît Gerda Taro, jeune Allemande qui combattait le nazisme, mais surtout reporter photographe tombé sur le front de la guerre d'Espagne. Voilà, c'est les numéros 2 de l'histoire qui deviennent numéro 1 par le truchement de la littérature ou du cinéma.
Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Je veux être le premier, moi alors!
Et moi aussi?
Comment?
Je dis, moi aussi, je veux être le premier.
Mais alors, monsieur, moi je suis dans ma rue, j'ai le droit d'être le premier dans ma rue, vous n'êtes pas dans votre rue, vous?
Non.
Eh ben alors, allez dans votre rue, comme ça vous pourrez être le premier.
Vous avez raison.
Et on pourrait être le premier tous les deux, comme ça.
Bien.
Et vous ne bougez pas. Vous ne partez qu'après mon départ. Longtemps après.
Un extrait de L'Homme Orchestre de Serge Corbert. C'est un article paru dans le Figaro qui recense plusieurs ouvrages.
On lit beaucoup le Figaro en ce moment.
C'est qu'il n'est peut-être pas si mauvais. Attendez, il arrive même dans le sketch. Alors, bien sûr. Il s'agit parfois de second rôle de l'histoire, mais d'oublier aussi de l'histoire. Ça, c'est la magie de la littérature ou du cinéma aussi. On se demandait, est-ce qu'un second rôle de l'histoire en général pourrait être incarné par un acteur qui soit très très habitué au premier rôle?
Non, ce que je me disais, ça m'arrange en fait, c'est moi qui fais énormément de second rôle au cinéma. Oui. Maintenant on les remette un peu en surface, mais oui, je pense
si ça se trouve, il y aura un roman sur votre vie de second rôle.
Oh, je suis pas le seul.
Faites partie de ces gens qu'on reconnaît, qu'on a vu dans beaucoup
Oui, qu'on dit, mais ça te fait pas chier de faire tout le temps des second rôles?
Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça vous embête? Il y a une noblesse.
Mais moi, je suis très heureux de travailler.
Je suis d'accord.
J'ai une chance de travailler énorme. Je repense toujours à ça. Mais c'est pas de la modestie en me disant, quand j'ai commencé, j'avais moi envie de jouer un peu au théâtre et j'ai eu de la chance de faire du cinéma et j'ai eu des rôles formidables et j'espère que j'en aurai d'autres.
Vous êtes de ceux qu'on peut absolument pas louer parce que vous avez joué dans plein aussi de succès populaires. Il y a Delphine 1, Yvan 0 de Farrugia, Didier d'Alain Chabat, Ma femme est une actrice d'Yvan Attal, La Beuse de François Dozania, Mais qui a tué Pamela Rose, Double Zéro. Enfin, c'est impossible de pas voir un film avec Lionel Abelansky. Et parfois les gens dans la rue. Est-ce qu'ils arrivent à mettre un nom ou ils vous confondent?
Ça dépend, ouais. Parfois on m'appelle Michel Hazanavicius. C'est parce qu'on a. Alors je suis très fier. J'ai dit, les artistes, c'était vraiment du beau boulot. Ouais, j'ai bien bossé. Mais ouais, les gens, on a des noms un peu compliqués. Et puis on a commencé un peu en même temps avec les films de Dominique Farrugia.
Et il paraît que quand on vous cite un nom, on dit ah, mais vous êtes. Et qu'on dit un nom de quelqu'un que vous n'aimez pas, vous répondez.
Qui vous a dit ça?
J'ai lu ça dans une interview. Vous répondez, je t'emmerde.
Je suis Charles Berling et je t'emmerde. Bon, pardon Charles, mais Charles Berling ou un autre, mais parce qu'on m'a confondu parfois avec Charles Berling ou avec Denis Podalydès.
C'est vrai. Mais c'est Lionel Abelansky qui est avec nous pour notre plus grand plaisir, qui est en ce moment au théâtre Édouard VII dans Encore un instant, aux côtés de Michel Larocque, François Berléand et de Vinnie Dargaud. Et elle aussi, elle est avec nous, c'est Clara Dupont-Mono.
Eh bien oui, Charline, puisque l'actualité, c'est aussi Donald Trump, on en a parlé tout à l'heure, qui s'est dit mécontent après avoir appris qu'il n'aurait pas les crédits pour construire son fameux mur à la frontière mexicaine. Alors il a dit qu'il n'était pas content, mais content, il a dit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Lionel Abelansky, mais souvent, les noms propres sont facétieux. C'est qu'ils désignent parfois exactement l'inverse de ce que la réalité montre. Par exemple, « a chump » en anglais, cela signifie un atout en français, ce que n'est pas précisément Donald Trump, qui est plutôt un boulet. Et c'était exactement comme d'appeler à renverser la table, faire la révolution, quand on s'appelle Philippe Poutou. Problème, bien sûr. Ou se dire anti-riche, alors que justement, on porte un nom d'hôtel de luxe, comme Meurice, au hasard. Tout ça pour vous dire qu'il faut...
Ibis.
Voilà, c'est Formule 1. Tout ça pour vous dire qu'il faut se méfier du patronyme, il est souvent espiègle, il aime prendre le contre-pied de la personne qui le porte. Et ce sens du comique va assez loin. J'en veux pour preuve un petit livre qui vient de sortir, et qui s'appelle « Les noms ridicules de l'histoire de France », signé de l'historien Bruno Fulini. Il s'est amusé à explorer notre histoire uniquement à la lumière de ses patronymes blagueurs. Et il confirme que très souvent, l'individu construit toute sa vie pour faire mentir un patronyme un peu honteux. C'est le colonel Dominé, né en 1848, qui se battit comme un diable lors de batailles du Tonkin et montra combien Dominé fut dominant. C'est le chirurgien, qui a vraiment existé tout ça, hein. C'est le chirurgien Jacques Ambroise Monprofit qui montra toute sa vie un grand désintéressement jusqu'à sa mort en 1922. C'est Henri Poincaré, bien sûr, qui lutta contre l'aberration géométrique de son nom en devenant un grand mathématicien. Et c'est Angélique de la Motte, née en 1600, qui devint religieuse. Forcément. On découvrit plus tard qu'elle était hermaphrodite, ce que lui voudra... De la Motte, vous n'avez pas compris ?
Non.
Il n'a pas compris, c'est pas grave. On découvrira plus tard qu'elle était hermaphrodite, et pour cela, elle écopa d'un procès terrible en 1661. Mais vous voyez, le nom porte une malédiction qu'il faut rompre, et l'on comprend mieux la carrière de Charline, la personne la moins morbide du monde, quand on sait que justement, Van Hoenecker désigne un cimetière. Voilà. Alors parfois, il se produit l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une malédiction, le nom dessine un destin. Il prédispose une existence. Comment expliquer autrement que le docteur Prout, né en 1785, spécialiste de la chimie organique, enseigna toute sa vie le fonctionnement des gaz d'estomac ? Comment expliquer que Louis Lurine inonda le 19e siècle d'articles, de livres, de pièces de théâtre ? Bref, que Louis Lurine pissa à ce point de la copie. Quant à Monsieur Butin, bien sûr, il ne pouvait être qu'industriel et homme politique. Il fut député de l'Oise en 1906. Le patronyme annonce la fonction, le caractère, les passions d'une personne. Voilà pourquoi il est grand temps, cher Lionel, de s'appeler Lionel Crève-l'écran ou Alex Râteau au choix. Enfin, n'excluons pas la puissance inconsciente du nom qui peut aussi pousser l'individu à se transformer pour épouser ce que son nom suggère. Ainsi du romancier Nicolas Gogol qui a fini neuneux après s'être volontairement affamé sur les conseils d'un prêtre fanatique, il y a plus malin, avouez. Ainsi de François Le Hideux qui a dit oui à Pétain, mais aussi de Philomène Boudin, prostituée née en 1860, qui mangea beaucoup et qui était si magnifiquement en chair que Paul Verlaine célébra, je cite, « cuisse grosse mais fuselée, tendre et ferme par en dessous, dessus d'un dur qui serait doux, musculeuse et potelée ». Je vous redonne les références. La petite histoire, la petite histoire, « Les noms ridicules de l'histoire de France » de Bruno Fulini, c'est paru chez Librio et ça coûte 3 euros.
C'est rigolo.
Et c'est merveilleux.
Merci Clara Dupont-Monod. Lionel Abelanski, on va parler de ce troisième sujet qui a trait à une de vos passions, le PSG, si je comprends bien. Car une soirée foot, bon, c'est toujours des bières, des pizzas et des amis, mais pas trop d'amis, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout l'ordinateur sur les genoux que ça se regarde, avec le match en streaming et les commentaires en allemand ou en russe, car les abonnements aux chaînes de sport sont très chers, surtout sur les cumuls, à cause des droits du foot. Et donc, les sites pirates fleurissent illégalement. Et ça se passait comment avant, quand même, encore ?
Je m'en pas enregistré le foot.
T'as raison, j'ai dû me gourer, ou alors ils ont déprogrammé le match.
Déprogrammé ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils déprogramment le match ? Sur France 3, faudrait déjà qu'ils programment du foot pour ça. Putain, France 3, c'est facile, c'est des trucs chiants, tu sais. C'est les questions pour un champion, le journal régional, les racines, les ailes. Ah, ben oui, voilà, canal, le foot. 4, c'est à côté, hein, c'est con, hein, putain.
Florence Foresti dans Barbecue, vous avez reconnu, Lionel, oui, c'est le film d'Éric Lavigne.
Dedans
aussi. Ah, c'est vrai,
oui. Je suis dans la scène même, c'est pour ça que je m'en souviens.
C'est pas fait exprès.
Parce que sinon, je vais pas au cinéma.
C'est pas Charles Berling.
Non, c'était moi.
J'ai, ça m'avait passé au-dessus dans votre film, c'est marrant.
C'est pas grave.
En fait, il est partout.
Avec De Funès, c'était pas vous, normalement.
Mais je me suis demandé qui était, parce que c'était un acteur qui jouait très droit. Je me suis demandé qui est. Je vérifierai.
Alors, mardi, il y avait le fameux match PSG-Manchester qui a été diffusé par erreur par Facebook
sur le site du PSG.
Sur le site du PSG, voilà. Donc, il y a 1,4 million de gens qui en ont profité. RMC, ils sont vraiment. RMC Sport, ils sont vénères parce que le groupe SFR a dépensé 1 milliard pour les droits du foot.
Oui, bah, que
c'est un peu marrant quand même.
C'est un peu marrant, mais de toute façon, les 1,4 million, pardon, qui ont regardé sur Facebook, ils l'auraient regardé ailleurs,
Parce qu'il
y a.
Vous l'avez vu, vous, ce match?
Oui, alors, j'ai pas enregistré parce que j'ai plus de magnétoscope.
Ah, mais, un magnétoscope. Tiens.
Non, parce qu'avant, je faisais ça. Quand je jouais au théâtre, j'enregistrais.
Et je rentrais
chez moi. Et, bah, là, ça, je l'ai fait.
Ouais, vous êtes arrivé à
j'ai vu sur l'iPad après en replay.
Ah, d'accord.
Et je suis rentré en voiture chez moi ce soir-là et j'ai fait attention, il y a un café du PSG à côté de chez moi, donc j'ai fermé les yeux, tourné la tête dès qu'il y avait un écran dans un café.
Ah oui. Pouvoir regarder le match
pour le voir en condition directe.
Et vous regardez sur quoi alors, une chaîne
sur RMC.
D'accord,
j'ai un ami qui m'a prêté son code.
Voisin et ses amis qui à chaque match hurlent alors que je suis couchée, le message est passé, je déteste le PSG. Voilà. Alors, Lionel Abelanski, revenons-en.
Vous savez très bien qu'il y a un sketch à la fin de l'émission.
Hein.
Un rôle à jouer. Alors, vous avez peut-être entendu qu'il y a eu un amendement au projet de loi pour une école de la confiance. Notre ami Blanquer a fait ça et qui prévoit de reconnaître l'homoparentalité dans les formulaires. Ce sera plus père-mère, ce sera parent 1 et parent 2. Un sujet angoissant à traiter pour la rédaction du Figaro.
Ah ouais, terrible.
Personne veut y aller. Vous êtes journaliste, Charline aussi, et Guillaume Meurice est le chef d'édition.
L'article du Figaro ce matin est très lol.
Bon, alors, qui veut couvrir la guerre en Syrie cette semaine pour le Figaro?
Ah,
là?
Moi, c'est moi.
Ah bah, quel enthousiasme.
Je vous en supplie, il y a tout, sauf l'amendement parent 1, parent 2.
Moi, je suis même prête à me rendre dans un centre d'hébergement pour migrants.
Moi aussi, mais seulement celui du 16e arrondissement.
Attendez, si vous ne pouvez pas traiter le sujet, vous seriez prêt à renier père et mère?
Ah, plutôt à renier parent 1.
Et parent 2.
Je crois qu'on tient un angle, alors.
Mais vous nous imaginez à la manif pour tous?
Bah oui, plutôt bien, je vous rappelle que vous bossez au Figaro.
Vous avez pensé au slogan un papa, une maman?
On aura l'air de quoi avec nos pancartes? Un parent 1, un parent 2.
Bah de clown comme d'habitude.
Non mais moi je pense que les enfants ont besoin de repères.
Vous voulez dire qu'ils ont besoin de parent 1?
Mais pourquoi ce serait pas la mère le parent 1?
Ah, ça c'est un bon débat ça.
Ah mais ça je veux bien le traiter alors.
Bon super, alors tu vas voir, tu vas y arriver comme papa dans maman.
Tu veux dire comme parent 1 dans parent 2?
Ouais, ou comme parent 2 dans parent 1 quoi.
Bon et si ce projet de loi permettait d'éviter de mettre les enfants dans des cases?
J'en parlais justement à notre éditorialiste préféré.
Et que disait Éric Zemmour?
Il dit quoi l'humaniste?
Que lorsque les parents sont noirs, c'est compliqué de ne pas mettre l'enfant dans une case.
C'est excellent. J'adore l'humour d'Éric.
Ah non, mais non, mais c'était pas de l'humour.
Et dites, ce serait pas l'heure de la prière, là?
D'où, Seigneur, on a failli oublier.
Au nom du parent 1, du Fils, du Saint-Esprit.
Ah, j'ai une idée.
Dès que vous priez, vous avez une idée, ça vient d'en haut.
Ah, mais Dieu est miséricordieux. Donc, mon idée, on interview Ludovine de la Rochère.
Non, mais je me disais, vu l'âge de notre lectorat.
Oui, de 77 à 97 ans, donc.
Plutôt que de parler pour une école de confiance, est-ce qu'on parlerait pas plutôt des couches confiance?
Excellent! Ça, avec ça, on va captiver les grands-parents 1 et les grands-parents 2.
On y était à la rédaction du Figaro.
Bonne application pour notre invité du jour.
L'article était rigolo. Ils ont interviewé un psychanalyste qui disait que vraiment c'était la fin de la civilisation presque et tout. On a senti une angoisse au Figaro de traiter ce sujet.
Bien sûr.
Lionel Abelanski, on était très heureux de passer cette heure avec vous.
Ah non, c'est moi.
Ah non, c'est nous, j'insiste. Et donc vous passerez un beau moment au théâtre Édouard VII tous les jours, sauf le dimanche à 21h. Le samedi, séance aussi à 17h. Dans Encore un instant de Fabrice Roger Lacan, dans une mise en scène de Bernard Murat, avec Lionel Abelanski, Michel Larocque, François Berléand et Vinnie Dargaud. Et puis dans toute la France, sachez-le, bien sûr. Merci beaucoup à tous. Merci Mélanie Boer, Clara Dupont-Monod, merci Alex et Guillaume. On va se retrouver demain en compagnie de Joséphine Demeau, qui nous fait aussi beaucoup rire dans les films, notamment de Nakache et Toledano. Vous avez dû tourner avec elle.
Je suis partout.
Et d'ailleurs, on vous laisse même le mot de la fin. Mais alors là, c'est à l'acteur engagé, Lionel Abelanski.
Antisocial, tu perds ton sang-froid.